Chapitre 23. Juliette se redressa tant bien que mal, refusant de prendre la main que lui tendait Ben. « Tu aurais pu être un peu plus délicat, » dit-elle vexée. « Excuse-moi, » répondit Ben, qui luttait contre le fou rire. « Je ne t'ai pas reconnue jusqu'à ce qu'on soit tous les deux par terre. Tu sais que tu es sur un terrain privé. Et toi, alors ?»«
Mon père est marin, » ajouta Ben en indiquant un des gros paquebots.
« C'est son bateau là-bas, l'Aurora. J'ai parfaitement le droit d'être ici. » Juliette soupira. Il ne lui restait plus qu'à raconter à Ben les malheurs de Jamie et à prier pour qu'il ne lui barre pas le chemin. En tâchant d'être aussi brève et concise que possible, elle lui expliqua la trahison dont la girafe blanche avait été victime, la traque des braconniers, la prédiction de Grace. Puis elle ajouta que sa grand-mère l'attendait dans sa voiture, garée sous un pin, et enfin elle lui avoua à quel point elle était attachée à Jamie et pourquoi elle voulait lui sauver la vie.
« S'il te plaît, Ben, promets-moi que tu ne te mettras pas en travers de ma route.
Ça fait des années que mon père redoute que son navire ne serve qu'à faire passer des animaux rares en contrebande, » répondit Ben très sérieux. « Mais il n'a jamais voulu signaler quoi que ce soit aux autorités avant d'en avoir la preuve. » « Si tu es sûr que la girafe est à bord, on peut le prévenir. Seulement, il faut y aller tout de suite. L'Aurora apparaît dans une demi-heure, direction le Moyen-Orient. » Juliette avait du mal à croire qu'elle avait devant elle un Ben qui parlait et souriait si spontanément. Il portait un jean élimé et déchiré, de grosses boots et un t-shirt noir sans manches. Ses bras, quoique très minces, étaient musclés et costauds. Il était à des années-lumière de l'image d'élève introverti qu'il avait à l'école. Soudain, il fila vers les chantiers en lui faisant signe de le suivre. « Qu'est-ce que tu fais ? » demanda-t-elle en courant pour le rejoindre. « Tu crois qu'on peut monter sur le bateau et ressortir, ni vu ni connu, avec une girafe ?»«
Comment ça, on ? » répondit-il en souriant.
« Tu vas monter, oui. Fais-moi confiance. » Dans certaines situations, la solution la plus simple est la plus efficace. Et comme pour prouver qu'il avait raison, une agitation soudaine vint troubler la jetée. Une caisse venait de se fendre au-dessus du pont de l'Aurora, et ce qui ressemblait à une table et quatre chaises anciennes flottait à la surface de l'eau verdâtre et graisseuse du port. Des hommes juraient de tous les côtés et brandissaient leurs poings avec rage, tandis que deux chiens de garde devenaient fous en cherchant à se dégager de leur chaîne. Ben ne se laissa pas troubler. Il traversa les chantiers, avança tranquillement jusqu'à la passerelle du navire, monta sur le pont et pénétra dans le navire par une porte basse. Juliette le suivait à pas pressés. Le navire était un labyrinthe anonyme de couloirs, de galeries et de cabines impeccables. Mais Ben semblait parfaitement sûr de lui et savait très bien où il allait. C'est ainsi qu'avec Juliette, ils traversèrent des kilomètres de coursives aux murs gris, comme ceux d'un navire de guerre, avant de descendre deux escaliers en colimaçon, où leurs pas résonnaient tels des cloches d'église en fonte, pour arriver enfin devant une porte entr'ouverte qui donnait sur une immense salle d'entrepôt. Un homme au teint basané était penché sur un ordinateur. Au moment où Ben frappa à la porte, il sursauta, puis cria quelques mots dans une langue qui devait être du russe. Ben répondit par un sourire radieux. « Le capitaine Holloway vous demande sur le pont, » dit Ben poliment. « Je ne sais pas exactement de quoi il s'agit, mais ça a l'air urgent. » L'homme répondit par un regard suspicieux. Il tendit la main pour prendre son talkie-walkie. « Je suis presque sûr que c'est urgent, » répéta Ben. L'homme attrapa quelques papiers en râlant et fila. Ben attendit qu'il soit hors de vue et se précipita à l'intérieur de l'entrepôt. « Entre, Juliette, viens voir !» Il ferma la porte à clé derrière eux et ouvrit un secrétaire. À l'intérieur, des centaines de clés étaient suspendues à des crochets de cuivre. Il les examina méthodiquement, en les retirant et en les posant une par une sur le sol. Juliette jeta un œil sur sa montre. Il était midi passé. Le navire partait dans 20 minutes.
Elle n'osait pas imaginer ce qui arriverait s'il n'avait pas retrouvé Jamie d'ici là. On frappa à la porte. Ben lui fit signe de ne pas ouvrir. On frappa à nouveau, puis encore, et les coups redoublèrent. Juliette était au bord de la crise de nerfs, tandis que Ben, imperturbable, demeurait d'une sérénité parfaite. Il continuait à examiner les clés une par une, comme s'il avait des heures devant lui, feignant d'ignorer qu'il participait à une opération de sauvetage d'un animal enlevé illégalement, tandis qu'un Russe enragé martelait la porte avec ce qui devait être un extincteur. Le martèlement cessa, et l'on entendit l'écho métallique de pas qui remontaient dans les escaliers et qui s'éloignaient. « Je t'en supplie !» implora Juliette. « Je l'ai !» hurla Ben en brandissant un jeu de clés. « Mais on n'a plus beaucoup de temps, vite !» Il ouvrit la porte, et tous deux filèrent le long d'une coursive étroite, puis descendirent deux escaliers et se précipitèrent à travers un placard de nettoyage, quand soudain, ils se retrouvèrent face à deux gros moteurs couverts de graisse derrière une porte latérale. L'air était enfumé et nauséabond. Ils devaient être dans les cales. Soudain, le sol trembla, et Juliette entendit le grondement sourd de machinerie mise en route. « Tu crois qu'on va y arriver ?» chuchota-t-elle. Ben ne répondit rien. Ils étaient parvenus au croisement de deux couloirs et il hésitait. « Oh oh !» gronda une voix. « Qui vois-je devant moi ?» Un homme surgit de l'obscurité, découvrant un visage buriné et une belle brosse de cheveux gris. Il se dirigea aussitôt vers eux, l'air farouche. « Bonjour, monsieur !» lança joyeusement Ben. « Mon Dieu, mais c'est Ben, je ne t'avais pas reconnu !» Il regarda Juliette en fronçant les sourcils. « Dites donc, vous n'avez pas vraiment le droit d'être ici tous les deux. C'est une zone interdite et nous appareillons dans moins d'un quart d'heure. »« Excusez-nous, j'étais en train de faire visiter le navire à mon ami et j'ai perdu la notion du temps. Je dois avouer que je suis un peu perdue. »
« Ça ne te ressemble pas, Ben. Tu connais le navire presque aussi bien que ton père d'habitude. Enfin, prends ce passage jusqu'à la zone de fret. Tu tomberas sur un ascenseur qui remonte sur le pont. Dépêche-toi. Tu n'as quand même pas envie d'aller jusqu'à Dubaï, non ?»
Ben remercia chaleureusement l'homme et se précipita dans la coursive avec Juliette. Bientôt, tous deux se retrouvèrent face à une grande porte en acier sur laquelle était accrochée une pancarte. Une mise en garde, imprimée en grandes lettres rouges, prévenait que le personnel entrait là à ses risques et périls, et que la direction déclinait toute responsabilité en cas de blessure, traumatisme ou mort, suite aux coups, aux morsures ou aux piqûres d'animaux venimeux. Loin de perdre son sang-froid, Ben prit la main de Juliette et lui remit le trousseau de clés en la pressant. « Je m'arrête ici. Si je me fais prendre, ça risque de me coûter plus cher que le boulot de mon père. Vas-y, et en sortant, prends l'ascenseur qui remonte au niveau 3 et traverse la passerelle. Dès que tu seras sur la jetée, regarde à gauche. Tu verras un sentier qui monte à flanc de colline et mène à deux grandes portes métalliques. Je vais m'assurer qu'elles sont bien ouvertes. » Juliette hésitait. Une dernière question la turlupinait. Tu penses que tu pourrais prévenir ma grand-mère? Promis. En attendant, bonne chance. À toi de jouer. Juliette dut s'y reprendre à 5 fois avant de trouver la bonne clé. Pendant ce temps, le navire commençait à tanguer, grinçant et grondant comme un animal blessé. Une ou deux fois, elle crut même qu'il avait largué les amarres. Enfin, elle entendit le déclic du loquet et poussa de toutes ses forces pour ouvrir la porte massive. Pour la première fois, depuis le début de la journée, elle avait une lueur d'espoir. Elle entra, accrochant la manche de son t-shirt à un clou. Elle se dégagea sans y faire attention. À peine entendit-elle le grincement de la porte qui se refermait qu'elle fut saisie par une odeur pestilentielle où se mêlaient des effluves d'huile, de fumier et d'eau de mer. Elle était dans une zone remplie de conteneurs et éclairée par des néons vacillants. Des tas de grosses boîtes et de caisses, dont beaucoup étaient recouvertes de bâches, étaient stockées en rangées désordonnées. Elle commença à soulever les bâches et à fouiller. Elle découvrit alors des cages vitrées remplies de serpents qui se morfondaient, d'autres bourrées de perroquets à la mine défaite, de grandes caisses où étaient entassés des singes qui gémissaient, des mâles pleines de peaux de bêtes, de cornes d'antilopes, de graines d'alcool, et plus loin, un petit troupeau de moutons tristounets, blottis les uns contre les autres dans une caisse beaucoup trop étroite pour eux. Le dernier conteneur de la rangée abritait un énorme babouin mâle aux fesses bleues. Elle s'approcha, et l'animal se précipita sur les barreaux de sa cage en découvrant de grandes dents jaunes. Elle faillit s'évanouir de peur. Aucun signe de la girafe. Jamais elle ne s'était sentie aussi démunie. Le spectacle de toutes ces créatures, dont la plupart avaient dû être jetées là comme un tas de charbon ou de riz, était insoutenable. Comme si les animaux n'avaient ni sentiments ni besoins. Comme s'ils ne connaissaient ni la faim, ni la soif, ni la douleur. Hélas, elle ne pouvait rien faire pour eux. Et elle avait de moins en moins de chances de retrouver Jamie. Elle essaya de raisonner de la façon la plus logique possible. Les conteneurs ne portaient pas d'étiquette lisible, mais cela ne signifiait pas qu'ils n'étaient pas marqués d'une manière ou d'une autre. Il y avait sûrement un moyen de les repérer. Elle commença par examiner les caisses qui étaient à côté d'elle. Chacune portait un numéro inscrit à la va-vite, en bas à droite de la petite porte qui permettait de les ouvrir. Donc, soudain, un élancement dans l'avant-bras lui rappela qu'elle avait déchiré son t-shirt contre un clou en entrant. Il n'y avait pas un truc accroché au clou? Un genre de carnet ou de fiche? Ça y est, elle s'en souvenait. Numéro 144, girafe, LC. Elle repéra tout de suite le numéro. Si elle avait fait attention, elle l'aurait même vu plus tôt. C'était un conteneur peint en noir, plus haut et plus large que les autres. Elle se précipita dessus et fit glisser la bâche. Jamie était replié dans la cage, les jambes formant un angle curieux. Son manteau blanc argenté était couvert de blessures et taché de sang. Elle paraissait morte. « Jamie ! Oh, ma Jamie adorée ! Comment ai-je pu être si imprudente ?» En entendant la voix de Juliette, la girafe releva la tête. Elle avait un regard éteint, vide. « Jamie, je t'en supplie, ne meurs pas !» La girafe s'affala à nouveau et ses paupières s'abaissèrent. Elle respirait à peine. Juliette déverrouilla la porte de la cage, entra et s'agenouilla à ses côtés. Elle caressa son visage et son cou et peu à peu sentit revenir le picotement familier. « Je t'en supplie, réveille-toi !» La girafe ne réagit pas. Elle ferma les yeux et posa les mains sur le cœur de la girafe. Un défilé d'images en couleur de tous les moments qu'elle avait passés avec Jamie traversa son esprit. Le soir où elle l'avait vu pour la première fois au milieu de la tempête, tremblant sur un fond de ciel noir. L'instant inoubliable où Jamie avait posé sa tête sur son épaule. La nuit où elle s'était allongée contre elle au sommet de l'escarpement pour admirer la Voie lactée. Leurs incroyables chevauchées au milieu des éléphants et des lions de Sawumbona. Ses mains chauffèrent, et elle sentit un flot de tendresse et d'amour traverser tout son être et se transmettre jusqu'au corps de Jamie. La girafe prit alors une longue respiration, comme si elle cherchait à retrouver la vie qu'elle avait failli perdre. Elle ouvrit les yeux, en même temps que son amie, et Juliette discerna alors une lueur de vie. Elle comprit que la girafe l'aimait et avait toujours confiance en elle. Elle pressa son visage contre son épaule douce et veloutée et y déposa un baiser, puis se rassit. Les doigts tremblants, elle fouilla dans la bourse de Grace pour prendre un des flacons qu'elle lui avait remis le soir où elle s'était retrouvée dans la grotte. En cas de saignement ou pour soulager toutes sortes de douleurs, avait précisé Grace. Elle s'était pourtant jurée de ne jamais y avoir recours. Le flacon contenait un liquide d'une couleur repoussante et dégageait une odeur qui donnait envie de vomir, entre les choux de Bruxelles et les grenouilles crevées. Mais elle n'avait pas le choix. Elle avait le pouvoir de guérir. Mais jusqu'où allait-il ce pouvoir? Son expérience avec le koudou lui avait appris qu'un peu de médecine traditionnelle était parfois utile. En plus, elle ne savait pas à quel point Jamie était blessée, et elle n'était même pas sûre qu'elle puisse marcher, encore moins galoper pour quitter le navire et s'enfuir loin des chantiers navals. Elle tira le bouchon du flacon en se pinçant le nez et badigeonna le mélange sur les blessures de Jamie. La peau de la girafe grésilla sous l'effet du produit. Le navire fit une embardée et Juliette faillit tomber. Elle regarda sa montre, plus que 6 minutes. « Jamie, » dit-elle en caressant nerveusement la girafe, « il faut qu'on y aille. » Un temps infiniment long passa et l'animal se redressa sur ses pattes en vacillant. Rassurée, Juliette se dirigea vers la porte et se retourna. Jamie la suivait, d'un pas hésitant. Jamais Juliette n'avait senti un tel soulagement. Elle entrevit en passant un éclat de lumière noire et or. Les petits léopards! Elle était sûre qu'ils avaient été volés à Saoumbona, eux aussi. Qui sait si ce n'étaient pas les petits dont Tandai lui avait montré les traces de pas le jour où ils étaient montés sur l'escarpement. Hélas, elle ne pouvait rien faire pour eux et dut les abandonner, gisant entassés dans un coin de leur cage, sans doute drogués. Elle leur jeta un dernier regard angoissé, puis guida Jamie jusqu'à l'ascenseur. La cage avait beau être au moins 3 fois plus haute et plus large que celle d'un ascenseur normal, la girafe dut plier le cou et mugit plusieurs fois de panique. Juliette appuya sur le bouton menant au niveau 3 et l'appareil commença à monter. Jamie tremblait dans la cabine trop étroite pour elle, mais dès que Juliette lui fit comprendre qu'elle allait la monter, elle se calma. L'ascenseur s'arrêta. Juliette prit appui sur un rail pour grimper sur Jamie en évitant de toucher ses blessures au cou et aux épaules. Les portes s'ouvrirent. Soudain, elles tombèrent nez à nez avec Alex Dupuis, en pleine conversation sur son téléphone portable. « Finalement, ça a été beaucoup plus facile qu'on ne pensait, les doigts dans le nez. » Le regard d'Alex croisa ceux de Juliette et de la girafe. Il lâcha son téléphone et fit volte-face. « Remontez de la passerelle » hurla-t-il. « Arrêtez-les !»« Cours, Jamie !» cria Juliette. Et aussitôt la girafe fila au galop, flanquant au passage un majestueux coup de sabot à Alex avant de se précipiter sur le pont. Il s'écroula comme un phoque assommé par un coup de matraque. Un long grincement se fit entendre et la passerelle commença à remonter. Sur les quais, des hommes criaient, pointaient le doigt et déboulaient de partout. Le navire se mit à tanguer. Jamie bondit sur la passerelle et se précipita dans les airs. Juliette jeta un œil au-dessous, mais elle ne vit rien que l'océan.